Merci beaucoup. Tu as raison, JB. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut rematérialiser la critique des techniques, et je crois que beaucoup de gens le font. Et c'est l'un des problèmes du téléphone que tu montrais. C'est-à-dire que peut-être qu'individuellement, la consommation est assez limitée. Le problème, c'est qu'il y en a 8 milliards en circulation actuellement sur la Terre. Et c'est cette technique qui s'est additionnée aux autres en créant de nouveaux besoins, en remodelant nos relations sociales, en nous rendant dépendants de cet objet, comme à chaque plein d'autres techniques dans le passé. Et je ne crois pas que la critique des high-tech soit exclusive des critiques des autres techniques. Tout à fait, l'aspirateur. Non, mais c'est très important ce que tu dis sur la matérialisation de toutes ces techniques. Alors bon, moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Technocritique. J'ai beaucoup hésité sur ce que j'allais vous raconter aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses à dire et moi aussi j'en ai un peu marre des fois de raconter toujours la même chose que j'ai hésité longuement, donc je vais un peu rebondir et essayer de vous parler de trois choses. Je voulais commencer en vous racontant une petite histoire. Une petite histoire que JB connaît peut-être, c'est un texte assez obscur qui a été publié en 1859. C'est une petite nouvelle d'un auteur qui s'appelait Alfred Bonardo et qui s'intitule Archéopolis. Alors, ce texte a été un peu redécouvert par les passionnés de science-fiction et de dystopie catastrophiste, puisque cet Alfred Bonardo, qui était un érudit de l'histoire de Paris, qui se passionnait pour les ruines de Paris au cours du 19e siècle, en 1859, il écrit une petite nouvelle dans un recueil de textes qui s'appelle « Fantaisie multicolore », dans lequel il propose une sorte de méditation, de rêverie, que je vous raconte en deux mots. Donc un individu se réveille et se trouve plongé en l'an 9950. En l'an 9950, dans Paris, qui désormais est en ruine, puisque la civilisation occidentale s'est effondrée. Et donc il traverse les ruines et il rencontre un groupe d'archéologues du futur, puisque la civilisation s'est repliée en Afrique. Et ces archéologues du futur donc, lui racontent l'histoire de la Terre dans le dernier millénaire, depuis l'Antiquité. L'Antiquité, c'est notre société thermo-industrielle. Et ils racontent ce qui s'est passé, les origines de ce Paris de ruines. Et alors, ce que lui racontent ces archéologues du futur, qui parlent à un archéologue contemporain projeté dans le futur, je ne sais pas si vous me suivez, ce qu'ils lui racontent, c'est au début du XXIe siècle, le monde est entré dans un âge de fer et la société a connu une double crise sociale et environnementale du fait d'un monde industriel poussé trop loin, trop fort dans ses logiques, et ce double effondrement, cette double crise environnementale, donc il y a une crise sociale, un renforcement des inégalités liées à la mécanisation généralisée du travail qui recrée des populations oisives en surplus, et une crise environnementale, il y a toute une réflexion très rapide, ces trois mots, mais évoquant la question du climat notamment, mais c'est une fantaisie, il n'y a rien, il n'y a pas du tout c'est pas arrimé sur un discours scientifique, mais cette double crise sociale et environnementale liée à une industrialisation trop poussée et à la généralisation d'un système technicien destructeur a conduit à une énorme révolte, au milieu du XXIe siècle. Et cette révolte a abouti à la destruction des usines et à l'attaque contre les ingénieurs, devenue une nouvelle technocratie d'État à l'origine de la crise sociale et environnementale. Et donc, au milieu du XXIe siècle, cette révolte a entraîné un effondrement de la société et une société nouvelle est née qui entendait faire un usage prudent, un usage précautionneux des nouvelles technologies et de la production industrielle pour éviter que ne se reproduise cette catastrophe. Alors cette petite fable, elle est très intéressante, elle a eu très peu d'écho, elle n'est pas connue, mais elle est intéressante parce que son année de publication, c'est 1859. 1859, c'est un moment très charnière qui apparaît dans les courbes que Jean-Baptiste a évoquées. C'est l'un des premiers moments d'accélération de cette extraction croissante de matière, de cette industrialisation croissante du monde. C'est un moment d'installation d'une confiance inédite dans le progrès technique et dans l'idée qu'il y a une technique, la technique en général, comme catégorie générale et abstraite, et que le progrès de la technique en général allait conduire à un progrès des sociétés, à un progrès dans le confort, un progrès dans les relations sociales et morales. C'est l'âge triomphant du positivisme et du scientisme. Et c'est aussi une époque où il y a les grandes expositions universelles, où sont mises en scène, décrites les innovations qui sont censées apporter émancipation et bonheur aux populations. Et c'est dans ce contexte-là que cet auteur propose cette espèce de rêverie. Et alors, ce qui est très intéressant, il me semble, c'est qu'il met en scène l'effondrement du monde et de la société industrielle via donc, une double crise sociale et environnementale qui aboutit à une révolte généralisée des dominés contre ceux qui incarnent ce progrès industriel destructeur. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand il écrit ce texte en 1859, d'une certaine manière, les critiques de la technique, ou les critiques des techniques, qu'on n'appelait pas vraiment techniques à l'époque, les critiques des grandes machines et du monde industriel, justement, cette critique tendait un peu à être résorbée par une confiance croissante dans la possibilité émancipatrice des techniques. Or, lorsqu'il écrit ce texte, on est à la sortie d'une période qu'on peut appeler une période intensément technocritique, puisque la première moitié du XIXe siècle, qui correspond au début de l'industrialisation, au début de la confiance croissante dans les innovations, c'est le moment où le mot technique change de signification pour désigner de plus en plus ces artefacts matériels, alors que la technique, dans les sociétés anciennes, ça désignait des savoir-faire. La technique, c'était aussi bien l'art d'apprendre un poème, une poésie, qu'une grosse machine productive permettant d'améliorer la productivité du travail. Le mot technique change de sens. L'innovation, qui jusqu'au début du XIXe siècle était un terme connoté de façon très péjorative, l'innovation, ça voulait dire l'introduction de perturbations dans une organisation sociale qui risquait de détruire le fonctionnement de cette société. L'innovation est dotée de plus en plus d'une vision positive, de caractéristiques positives, devient en quelque sorte le moteur de la transformation des sociétés et toute une idéologie, toute une croyance. Je pense que derrière la critique de la technique, il y a à la fois la critique d'objets qui ont une dimension prédatrice ou néfaste sur le plan social et écologique. Et derrière la technique, beaucoup d'auteurs, depuis Jacques Ellul, Gunther Anders et tous les autres l'ont dit, la technique c'est aussi une idéologie. Critiquer la technologie, c'est critiquer en fait un certain type de discours qui justement réduit ce qu'est le monde des techniques à un ensemble de croyances dans l'innovation. Et on est encore pris dans ce monde. Et donc quand cet auteur fait cette prophétie, justement les critiques, les émeutes populaires contre les machines ont disparu, ne se reproduisent plus parce qu'on est dans ce moment de consensus modernisateur qui se met en place dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Or, quand il fait cette prophétie, quand il fait cette rêverie, en réalité, il le fait avec en tête des soulèvements très réels qui ont travaillé la première moitié du XIXe siècle. Dans la première moitié du XIXe siècle, lorsque l'industrialisation était hésitante, lorsque le rapport de force n'était pas encore complètement affirmé entre d'un côté les industriels et ceux qui promeuvent des nouveaux dispositifs techniques et le reste de la société, lorsque cette inégalité n'était pas encore très creusée et très profonde, les révoltes contre la machine... Si on peut appeler ça, est-ce que c'est des formes de pré-technocritique ? En tout cas, est-ce que c'est des formes de technocritique au début de l'âge industriel ? Ces révoltes contre la machine étaient un phénomène assez fréquent, il ne faudrait pas exagérer, mais qu'on trouve de façon récurrente dans la première moitié du XIXe siècle. Alors, je ne vais pas vous faire la chronique de ces soulèvements populaires contre la machine qui ont façonné, accompagné le premier âge de l'industrialisation. Vous en connaissez autant que moi. Le 14 juillet 1789 à Paris, à Rouen, dans les secteurs d'activité qui sont à la pointe de l'introduction d'un nouveau système technique dans le monde du travail. On a une émeute des ouvriers du textile qui brûlent une nouvelle machine importée d'Angleterre le 14 juillet 1789. En 1811-1812, c'est les grandes émeutes du ludisme en Angleterre qui sont en fait complexes et qui ne se réduisent pas à la question de la machine, mais qui ont comme dimension cette critique des nouvelles machines productives qui sont accusées de renforcer les inégalités et d'accroître la misère. Vous avez en 1830... la révolte des typographes parisiens où toutes les machines à vapeur à imprimer qui venaient d'être introduites dans les ateliers sont détruites par des ouvriers typographes qui ne sont pas des ouvriers obscurantistes mais qui sont l'avant-garde ou l'élite ouvrière la plus lettrée, la plus compétente. Et d'ailleurs ces ouvriers écrivent des brochures pour justifier leur technocritique au début des années 30, pour justifier les violences qui ont eu lieu en 1830 en expliquant pourquoi ils ont brisé les machines. Ils ne sont pas contre la technique en général, ce qui ne veut pas dire grand-chose à l'époque. Ils sont contre des nouveaux systèmes productifs qui, introduits dans des contextes de tensions sociales, de crise, renforcent les inégalités, renforcent la misère, détruisent un certain nombre d'acteurs et détruisent la position sociale d'un certain nombre d'acteurs. Et c'est pour ces raisons que ces ouvriers détruisaient les machines. On pourrait aussi multiplier d'autres exemples. Dans le monde agricole, on peut en dire un mot, en 1830-31, vous avez les grandes révoltes en Angleterre, dites du Captain Swing, au cours desquelles les travailleurs agricoles des campagnes s'ameutent contre des nouvelles batteuses, c'est-à-dire des machines qui permettent d'accélérer considérablement le travail du battage des grains. Une fois que vous avez récolté les céréales, il faut les battre avec un fléau pour séparer les grains de la plante qui les porte. Et dans les, autour de 1830, on commence à mécaniser cette opération. Dans un premier temps, en Angleterre, parce que c'est l'Angleterre qui a les plus grands domaines fonciers aristocratiques, où les capitaux sont suffisants pour introduire ce genre de machines, et où on essaye de se passer des travailleurs agricoles pour des raisons de contrôle social, parce que ces travailleurs agricoles sont accusés de renchérir considérablement le coût de l'alimentation, et surtout sont accusés de voler une partie des céréales qu'ils sont chargés de battre. Et cette fonction sociale de contrôle social de la main-d'œuvre, elle est très importante à cette époque. On a à une moindre échelle en France, parce que la mécanisation du travail agricole prend d'autres formes et est beaucoup plus lente et progressive en France, mais vous avez des émeutes contre les premières batteuses qui arrivent dans les campagnes dans les années 1840, et surtout lors de la Révolution de 48. La Révolution de 48 a vu toute une série d'émeutes de grande ampleur à Paris et en province, au cours desquelles des usines textiles hyper modernes ont été incendiées, au cours desquelles des machines diverses et variées, incarnant la modernité technique et le nouveau productivisme industriel, sont attaquées. Et au-delà de ces violences, qui représentent en fait que la face émergée de l'iceberg, vous avez en 48 de nombreux autres discours interrogeant le sens du progrès technique, son fonctionnement. Vous avez des tas de pétitions envoyées aux nouvelles autorités républicaines en 48, demandant par exemple que, juste deux exemples de pétitions, une pétition d'une ouvrière passementière qui en 48 demande que les machines soient reléguées au musée, puisqu'il faut, il faut reconnaître le génie des inventeurs, des ingénieurs qui mettent au point des dispositifs mécaniques ingénieux, mais c'est pas parce qu'une machine est ingénieuse et efficace d'un certain point de vue qu'elle doit être utilisée, parce qu'une technique, ses usages sociaux doivent être rapportés aussi au contexte social. Or 48, c'est un moment de grave crise sociale, une grosse partie de la main d'œuvre est au chômage, une grosse partie de la main d'œuvre n'a pas de travail, et dans ce contexte, quelle est l'utilité d'introduire ces machines qui accroissent encore la productivité du travail? D'autres demandent la mise en place d'une législation, d'une taxation sur les nouvelles machines pour rééquilibrer la concurrence, la compétition entre travailleurs et grand machinisme. Donc ces violences sociales représentent qu'une face en fait d'une multitude de manières de critiquer ce qu'on appelle les techniques. Une autre manière de critiquer les techniques, c'est de refuser leur utilisation. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais insister, qu'on oublie, qui est peut-être peu visible parce que c'est moins spectaculaire, mais la critique des techniques se fait souvent à bas bruit. Il n'y a pas besoin de la théoriser, il n'y a même pas besoin de l'expliciter, il suffit de refuser l'usage. Et je voudrais juste évoquer un autre exemple là, dans le monde agricole, dans la continuité de ce que je viens de dire sur les batteuses. Lorsque les batteuses mécaniques arrivent, c'est une révolution, c'est la première machine agricole, le premier type d'activité agricole qui voit son travail vraiment se transformer assez rapidement, qui remplace donc le travail des ouvriers qui battaient au fléau. Or, le travail du battage au fléau, c'est très important, se fait au moment où il n'y a pas beaucoup d'autres activités dans les campagnes. Et donc, c'était un travail qui donnait du travail, des revenus, des ressources à des travailleurs pauvres, en général, qui ne possédaient pas de terre ou pas assez de terre pour subsister, et qui avaient besoin de ressources complémentaires, et qui trouvaient dans cette opération du battage des ressources complémentaires pour subsister. Or là, la mécanisation a évidemment des effets sociaux très graves dans les campagnes, puisqu'elle prive ces travailleurs ruraux de cette activité hivernale. Or, quand les machines à battre apparaissent, en fait, dès la fin du XVIIIe siècle, mais disons au milieu du XIXe siècle, elles commencent à bien fonctionner, à être en place. Il y a deux types de machines à battre, en fait, il y en a beaucoup plus, mais en gros, il y a deux types. Il y a des machines à battre à vapeur qui sont en acier, qui sont contrôlées par des chauffeurs spécialisés, qui sont fabriquées dans des usines spécialisées, en général assez loin, qui sont des machines assez dangereuses parce qu'elles nécessitent un combustible extérieur, du charbon, et elles sont très dangereuses parce qu'elles peuvent plus souvent exploser. Et l'autre technique concurrente, c'est la machine à battre à énergie animale, qu'on appelle la batteuse à manège, dont il y avait plein de modèles en fait. Or, ce qu'il faut souligner, c'est qu'entre 1840 et les années 1930, c'est dans l'entre-deux-guerres que, en gros, le battage à vapeur l'emporte sur le battage fonctionnant sur la base de l'énergie animale. C'est-à-dire pendant 70 ans, alors que dès les années 1850, les ingénieurs, les agronomes considèrent que le battage à vapeur est infiniment supérieur sur le plan technique et beaucoup plus efficace, pendant près de 70 ans, en fait, la grande majorité des paysans et des travailleurs agricoles vont mécaniser et commencer à transformer le battage par des batteuses à manège, c'est-à-dire par des batteuses en fait assez simples en bois, souvent fabriquées sur place par des forgerons, des menuisiers locaux, utilisant des animaux qui, justement, durant l'hiver, avait peu d'autres activités ou moins d'autres activités. Donc, on pouvait mettre à la batteuse pour réaliser cette opération. Et donc là, on a... pour les paysans qui ne voulaient pas de la batteuse à vapeur, il y avait des raisons très, très claires. Utiliser des batteuses à vapeur, c'était s'en remettre à un combustible cher et lointain qu'il fallait importer. C'était s'en remettre à des spécialistes, à des experts extérieurs, et donc à être... privé d'une partie de ce savoir-faire technique, de cette autonomie technique à l'égard des outils et du machinisme. Et en fait, pendant 70 ans, les paysans ont continué ont travaillé avec ces animaux, avec ces techniques simples, contre les batteuses à vapeur. Et il y a eu pendant 50 ans des débats qui montraient qu'en fait, le manège à vapeur était plus rentable, beaucoup plus efficace. Tout dépend évidemment des conditions sociales d'utilisation. Et j'ai encore, enfin, je ne vais pas vous citer les choses, mais dans les années 1880, il y a des spécialistes de l'agronomie qui expliquent que dans les petites fermes, dans une grande partie de l'agriculture française, les batteuses à vapeur sont totalement absurdes, alors que ça fait déjà une génération, 25 ans, que les agronomes et les ingénieurs des mines expliquent qu'il faut utiliser les batteuses à vapeur qui sont beaucoup plus efficaces. Or, pour la plupart des agriculteurs et des paysans, ces machines n'étaient ni plus efficaces, mais étaient au contraire beaucoup plus insatisfaisantes. Donc ce que je veux souligner, c'est que on peut considérer que cette... pour les ingénieurs des mines, cette attitude des paysans était en fait de la routine, de l'archaïsme, du refus de l'innovation et du progrès technique. Pour ces paysans, en réalité, c'était c'était la solution la mieux adaptée. Et la machine à vapeur était une sorte de technologie hors sol, déconnectée de leurs besoins réels et de la situation locale des travailleurs dans les campagnes. Donc il y a ces paysans, il y a une technocritique populaire qui ne se théorise pas, qui ne se dit pas, et qui me paraît fondamentale, et qui doit être prise en compte, et qui est, d'une certaine manière, de plus en plus difficile par le fait qu'aujourd'hui, l'innovation passe par des injonctions, par une accélération du processus, qui fait de ce non-usage quelque chose de plus en plus difficile. Alors, bon, j'ai à peine commencé ce que je voulais vous dire, puisque, en gros, à partir des années 1860, on rentre dans la grande société industrielle et dans une société marquée par la confiance dans le progrès technique et par un cadrage modernisateur inédit. Or, ça ne veut pas dire que ce qu'on appelle les technocritiques ont disparu. Moi, je crois que les technocritiques ressurgissent de façon périodique lorsqu'il y a à la fois la conjonction entre un changement a priori rapide du système technique, des objets techniques mis sur le marché pour les populations, un contexte de crise sociale et politique, et un contexte marqué par la frénésie des discours sur l'innovation hors sol, faisant des promesses débridées et dont les gens ont bien conscience que ces promesses sont totalement absurdes. Donc il y a eu un moment technocritique assez fort à la fin du 19e siècle, lorsque le capitalisme se transforme avec l'arrivée, l'accélération de la chimie, l'arrivée de toute une série de nouveaux objets fétiches comme l'automobile, etc. Vous avez un nouveau moment technocritique très fort dans les années 1830, avec la généralisation du taylorisme, du productivisme, de nouveaux systèmes techniques qui accélère le productivisme dans le contexte de grande crise du capitalisme. Vous avez une technocritique très forte dans les années 70, et c'est d'ailleurs dans les années 70 que le mot technocritique va être forgé par un ingénieur, Jean-Pierre Dupuis, quelle définition il donnait du mot technocritique ? Il considérait que la technocritique, c'était l'idée que les techniques ne sont pas neutres, les techniques ne sont pas juste des choses dont on dispose et dont on peut faire un usage positif ou négatif selon les organisations sociales, selon ceux qui les manient, mais les techniques contiennent à l'intérieur d'elles-mêmes, dans leur fonctionnement, dans leur design, dans leur rapport au monde, dans leur dimension matérielle, des formes de rapport au monde, des formes de domination des autres et de la Terre. Et alors, chacun de ces moments technocritiques est suivi, j'insiste pas là-dessus, par un moment de recadrage modernisateur. Et les deux guerres mondiales ont à cet égard joué un rôle fondamental dans la levée d'un certain nombre d'interrogations, de doutes qui pouvaient exister et qui sont mises de côté parce que la guerre mondiale, c'est des moments à la fois d'accélération de l'innovation, de confiance dans le pouvoir de ces innovations, de transformer la société et de gagner la guerre. Et donc les urgences imposent de laisser de côté ou de mettre de côté ces interrogations qui avaient pu surgir. De même, dans le moment technocritique très fort des années 70, alors la particularité des années 70, c'est que sans doute, plus qu'à aucun autre moment, la critique sociale classique qui est née au 19e siècle va être associée à une critique écologiste. Et je dirais, la critique écologiste, sa particularité, c'est d'introduire cette dimension matérielle, quels sont les l'énergie, de quelle énergie a besoin telle ou telle technique, quels sont les déchets qu'elle produit, quel est son impact matériel et physique sur le monde. Or, dans les années 80-90, ce moment intensément technocritique va être suivi par un nouveau cadrage modernisateur qui ne prend pas la forme d'une guerre et d'une mobilisation au service de la défense, mais qui va prendre la forme de nouvelles utopies technologiques, de nouveaux récits enthousiastes, la mondialisation couplée à l'informatique, qui sont censés faire naître un nouveau monde technique qui résoudra les problèmes du monde technique précédent, qui était celui des vieilles technologies industrielles. Or, le problème, ce que montrent les statistiques et les chiffres aussi de Jean-Baptiste, c'est que précisément depuis les années 70-80, ce nouveau monde technique qui était censé résoudre les problèmes introduits par l'ancien monde technique, ce nouveau monde technique a plutôt tendance à accélérer les dynamiques matériel, l'extraction de matière, les rejets polluants et toxiques, même si par unité ou par type de technique, il peut y avoir une diminution des rejets, des quantités de pollution émises. Avec l'effet rebond, la quantité massive d'objets mis sur le marché, la quantité globale explose. Et on est, je crois, aujourd'hui dans ce moment de bascule où il a existé, où on est dedans, je ne sais pas, un moment technocritique, un nouveau moment technocritique qui est né du fait que ces promesses des années 80-90 de la mondialisation et de l'informatisation heureuse se sont effondrées, leurs contradictions internes et leurs aberrations apparaissent de plus en plus nettement. Et donc on est dans un moment technocritique qui prend une forme évidemment très éclatée. Vous avez d'un côté la critique écologiste des impacts environnementaux négatifs de tel ou tel objet, vous avez de l'autre la critique politique mettant en cause les atteintes à la liberté, notamment du fait du nouveau monde numérique, vous avez la critique sociale qui s'articule à tout ce débat sur la robotisation avec une multitude de rapports souvent contradictoires qui annoncent ou pas la disparition d'emplois. Et ces différents types de critiques évidemment ont du mal à s'agencer, voire parfois s'opposent avec la critique sociale qui est opposée à la critique écologique. Or tout l'enjeu, mais ça sera la discussion la plus intéressante de ce soir, tout l'enjeu va être évidemment de mettre en cohérence, de donner du sens à ces différentes critiques pour, je pense, politiser les objets techniques. Politiser les objets techniques, c'est-à-dire penser leurs impacts sociaux en même temps que leurs impacts écologiques, et les deux doivent être pensés de façon dialectique et ensemble. Et peut-être qu'on est aujourd'hui, c'est un anthropologue suédois, Alf Hornborg, qui propose ça, on est moins dans l'anthropocène aujourd'hui que dans la technocène. C'est lui qui propose, donc il y a eu plein de propositions pour dépasser les apories de la notion d'anthropocène, on a parlé de capitalocène. Lui, il propose de parler de technocène, puisque le cœur de le problème de... Alors, ce n'est pas la technique en général, c'est les technologies, certaines technologies de l'âge industriel qui ont comme impact de reposer sur toujours plus de flux d'énergie et de matière, de toujours plus remettre en cause les organisations sociales et d'accentuer les inégalités. Et c'est bien la technique, enfin les techniques, ou en tout cas la technologie industrielle qui est articulée à un système capitaliste, une confiance fondamentale dans le marché et dans sa capacité à résoudre tous les problèmes, c'est bien cette technique-là qui fondamentalement constitue le problème et le cœur, je pense, de la critique qu'on doit porter ici. Voilà. Merci pour votre attention.